Chantez-la, c'est l'émission consacrée à la chanson voyageuse. Tous les jeudis des semaines impaires, de 17h à 18h, c'est préparé et concocté par Michel Boutet. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, bah, comme d'habitude, il y a tonton Albert.
Bonjour tout le monde.
Il y a 15 jours, Michel. Tu étais en forme aussi, bonjour. Tu étais en forme, toi, il y a 15 jours?
Ah bah moi, ça va, je n'étais pas moribond voilà, il y a 15 jours.
C'est ça, moi je l'étais.
Voilà.
Mais tout va beaucoup mieux.
J'espère.
Et puis ça va d'autant mieux que nous avons une invitée de marque en la personne de Gaëlle Le Teuf, que nous avons déjà reçue sur cette antenne, mais dans une autre émission. C'était autrefois. Bravo. Bienvenue Gaëlle.
Merci Michel.
N'hésitez pas à bien parler, à bien causer dans le micro. Alors vous le savez, cette émission est principalement consacrée à la chanson francophone. Mais il y a un artiste qui est parti voyager, on ne sait pas où. Et que je souhaite vous faire entendre aujourd'hui pour démarrer cette émission. Il s'appelait David Crosby. Et il faisait partie évidemment du fameux trio Crosby, Stills, Nash. Et puis ces cinq dernières années, il avait fait un paquet de disques, plus de 80 piges, il était en pleine forme. Mais je vais vous passer une chanson d'une autre époque, mais vous verrez un peu quel genre d'auteur il pouvait être et quel chanteur aussi, évidemment.
Their feet don't hardly touch the ground. Look at them smiling like they knew one another, and they never would come down. Turn around and hold me. I'd like to see face alone. I'm hoping the song will hold. I'd like to meet you. Who do you see? Introduce yourself to whichever of me. Stuck with no instruction that I can see to steer by. Stick around, it's tricky ground. I'd like to see your face alone. I'm hoping someone dream. Dreaming. Do it.
Voilà, adieu à monsieur David Crosby qui ces dernières années avait donc produit en 10 ans, je crois, il avait produit 5 disques, pour être précis. Le dernier venait de sortir au mois de décembre, c'était un disque enregistré en public avec un groupe de jeunes musiciens qui à 3 étaient plus jeunes que les 80 piges de David Crosby, mais les voix s'accordaient merveilleusement. Voilà, et maintenant on va passer à une autre excellence, puisque je vais passer le micro à Tonton Albert pour sa chronique de mauvaise humeur et de mauvaise foi, en l'occurrence son acouphane.
Un acouphane numéro 5 pour te mettre au parfum. Je te propose, Michel, d'officialiser un mode opératoire pour les acouphanes à venir. Vois-tu, c'est tout de même la seconde fois depuis que nous avons renoué avec notre complicité sur les ondes que tu me suggères, sans t'en douter, une idée de chronique. Plus exactement, que tu m'incites à aller piocher dans tel ou tel répertoire. C'est ainsi que je n'avais pu résister, par ta faute, et par pur esprit de contradiction aussi, à choisir une chanson d'Éric Frasiac pour mon quatrième acouphane. Et aujourd'hui, je reprends l'une des anecdotes dont tu nous as fait part il y a un mois à propos de Jacques Brel. Donc, fais bien attention à ce que tu vas dire tout au long de cette émission si tu ne veux pas te retrouver dans 2 semaines avec un acouphane non désiré. Là, je te mets carrément la pression, mon bon Michel.
J'ai bien fait de te mettre à la place la plus loin de moi.
Je crois. Je disais donc que la dernière fois, M. Boutet, ici présent, nous annonçait, en reprenant les propos de M. Jacques Brel, que le dit Jacques Brel n'avait guère écrit de chansons d'amour. Et qu'excepté Jeff, non, Jeff, t'es pas tout seul, c'était un genre qu'il n'avait, pour ainsi dire, pas exploré. Admettons. Personnellement, je connais des maudites Mathilde qui n'hésiteront pas à soutenir le contraire et même à le faire à la barre d'un tribunal. Et que dire de la chanson des vieux amants qui, la première fois que je l'écoutais, et pourtant sapristi, je n'étais point vieux alors, me communiqua des frissons durant toute la semaine. Certes, il n'est guère élégant de faire mentir les défunts en leur plaçant sous le nez la preuve qu'ils ont colporté quelques sottises à un moment ou l'autre de leur existence. Les dits défunts ne sont plus là, ils ne sont plus en état d'argumenter, et le chroniqueur chafouin que je suis peut aisément emporter la partie à peu de frais. En même temps, faire mentir les vivants ne sert pas non plus à grand-chose, tant les approximations et les ressorts zdoing de la mauvaise foi fonctionnent à merveille chez les vivants mis en difficulté. Non, Michel, je ne pense pas à quelques ministres investis de la mission de nous faire avaler avec l'aplomb d'un arracheur de dents la couleuvre anaconda de la retraite à 64 ans. Bon, les retraites, c'est fait, où en étais-je? Ah oui, Jacques Brel. Donc, si on en croit l'auteur de Ces gens-là, Frida, qui est belle comme un soleil, c'est juste du décorum. Pourtant, M. Brel vous commite sur ce thème de l'amour des milliards de fois rabâché, sans doute l'un des plus beaux textes de la chanson française, j'ai nommé Orly. Pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre, me diras-tu, mon bon Michel? Tout simplement en raison de la structure bougrement originale de cette chanson. Avec Orly, on n'est plus dans une chanson, on est carrément au cinéma. Et Brel utilise même la technique de la caméra subjective. D'ordinaire, dans les chansons d'amour, le tourtereau transi pleure toutes les larmes de son corps sur l'indifférence, voire sur les infidélités de sa belle. Dans le style « Et vous, mes mains, ne tremblez plus, souvenez-vous quand je vous pleurais dessus », pour ne prendre qu'un exemple brélien parmi d'autres. En somme, on reste le nez dans le guidon et on chiale. Oui, l'amour, quand ça rigole, dans la chanson, c'est moins vendeur. Là, avec Orly, Brel nous dit que Cupidon s'en est pris à d'autres qu'à lui. On préfère quand Cupidon s'en fout, pas vrai, tonton Georges, ça fait moins mal. Mais bon, ce n'est pas parce que vous n'êtes plus en première ligne que vous restez insensible à la douleur d'autrui. Mais surtout avec Orly, Brel se fait observateur. Il a pris toute la distance nécessaire vis-à-vis de l'amour. Il est revenu de toutes les désillusions que l'amour procure. Et pourtant, il contemple encore et encore la puissance de feu que génère l'amour. Et il n'arrête pas de zoomer le grand Jacques au fil de ses couplets, plan large et plan serré, et même gros plan alterne tout au long de ce drame qui se déroule sous ses yeux de témoin. un témoin qui nous entraîne au plus près de l'épouvantable et visiblement définitive séparation qui se construit là, sous nos yeux incrédules. Brel nous amène à compatir à ce terrible coup du sort qui frappe ces deux déchirés, superbes de chagrin, à une rupture à laquelle aucun des deux ne consent. Pourquoi se quittent-ils, cette femme et cet homme qui s'aiment à en crever ? On ne le saura pas, et qu'importe, le sujet ne réside pas là. Le sujet, c'est leurs tout derniers instants d'amour dans cet aéroport qui va les séparer à jamais. Un quai de gare aurait pu convenir aussi. Mais l'avion vous embarque bien plus loin que le train, vers un irrémédiable autrement plus palpable. Pour les ruptures, l'avion, ça fait plus de dégâts que le train, en cas de crash aussi. Les amoureux sont toujours seuls au monde, paraît-il. Dans Orly, ça grouille tout autour d'eux, d'adipeux en sueur et de bouffeurs d'espoir qui les montrent du nez. Ces deux humains torturés par la vie ne les voient pas. Dans le creux de leurs bras, ils se bricolent un nid de souffrance pour se protéger de la médiocrité et de l'hostilité ambiante. Mais nom de Dieu, c'est triste Orly le dimanche, avec ou sans Béco. Et avec ce vers, je me demande, Michel, si Brel n'ose pas un jeu de mots entre Béco, le chanteur auquel il fait référence, et le Béco, le baiser argotique. J'évoque la chanson de Béco. Monsieur 100 000 volts venait à Orly pour rêver aux destinations lointaines que les avions permettaient d'atteindre. Brel, quant à lui, vient à Orly pour assister au cauchemar de deux amoureux cloués au sol. Autre temps, n'est-ce pas ? Mais revenons à nos tourtereaux, car le climax, l'intensité dramatique maximale, est imminente. Du reste, cela survient sans prévenir. Et brusquement, il fuit sans se retourner, et puis il disparaît, bouffé par l'escalier. Une brutale accélération, et d'un coup, le vide. Avoue, Michel, que tu le vois, ce foutu escalier qui vient d'avaler Roméo. Un travelling implacable, comme un coup de poignard. Retour caméra sur Juliette, qui n'est plus une femme, mais une âme en peine. Brel, d'ailleurs, ne s'y trompe pas. Devant la tragédie absolue, on reste impuissant. Je la vois, je la suis, je n'ose rien pour elle, que la foule grignote comme un quelconque fruit. Lent travelling avant et fondu au noir. Allez, on écoute Monsieur Brel.
Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. La pluie les a soudés, semble-t-il, l'un à l'autre. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et je les sais qui parlent, il doit lui dire je t'aime, elle doit lui dire je t'aime. Je crois qu'ils sont en train de ne rien se promettre. Ces deux-là sont trop maigres pour être malhonnêtes. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et brusquement ils pleurent à gros bouillons, tout entourés qu'ils sont d'adipeux en sueur et de bouffeurs d'espoir qui les montrent du nez. Mais ces deux déchirés, superbes de chagrin, abandonnent aux chiens l'exploit de les juger. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est triste Orly le dimanche. Avec ou sans Béco. Et maintenant ils pleurent, je veux dire tous les deux. Tout à l'heure c'était lui lorsque je disais il. Tout encastrés qu'ils sont, ils n'entendent plus rien que les sanglots de l'autre. Et puis infiniment, comme deux corps qui prient, infiniment lentement, ces deux corps se séparent. Et en se séparant, ces deux corps se déchirent, et je vous jure qu'ils crient. Et puis ils se reprennent, redeviennent un seul, redeviennent le feu, et puis se redéchirent, se tiennent par les yeux. Et puis en reculant, comme la mer se retire, ils consomment l'adieu. Ils bavent quelques mots, agitent une vague main. Et brusquement ils fuient sans se retourner. Et puis ils disparaissent, bouffés par l'escalier. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est triste, Orly, le dimanche, avec ou sans Béco. Et puis il disparaît, bouffé par l'escalier, et elle, elle reste là, cœur en croix, bouche ouverte, sans un cari, sans un mot. Elle connaît sa mort, elle vient de la croiser. Voilà qu'elle se retourne, et se retourne encore. Ses bras vont jusqu'à terre, ça y est, elle a 1000 ans. La porte est refermée, la voilà sans lumière. Elle tourne sur elle-même, et déjà elle sait qu'elle tournera toujours. Elle a perdu des hommes, mais là, elle perd l'amour. L'amour le lui a dit, revoilà l'inutile. Elle vivra de projets qui ne feront qu'attendre. La revoilà fragile, avant que d'être à vendre. Je suis là, je la suis, je n'ose rien pour elle, que la foule grignote comme un quelconque fruit.
Merci, tonton Albert, pour ce choix qui, évidemment, colore les choses d'une manière qui ne s'excuse pas. Bienvenue à nos invités, à Gaël et Olivier. Gaël, on l'avait déjà entendu donc, sur cette antenne, dans une émission qui s'appelait « On est là pour voir le défilé ». C'était dans une autre vie. Et aujourd'hui, eh bien, c'est pas Gaël qui vient, c'est Silène. C'est un duo. Évidemment, vous allez nous dire à peu près tout ce que vous pouvez nous dire sur Silène. Et comment on passe d'une carrière solo à une carrière en duo. Les micros sont ouverts.
Alors d'abord, c'est une rencontre, Silène. On a voulu faire des choses artistiques, même pendant une période... un peu lointaine maintenant, et c'était un dispositif qui s'appelait Ouvrir l'horizon. C'était en 2020, je dirais, ou 21, je sais pas, Olivier.
Ben, on n'a pas été pris déjà,
mais l'élan était là.
Donc on a cherché qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir faire ensemble. On
c'était
cherché...
pendant la Covid, donc, si j'ai compris.
Oui, c'était pendant la période d'hystérie sanitaire qu'on a traversée. Là.
C'est joli, ça, l'hystérie sanitaire.
Je l'ai vécu comme tel. Et on l'a vécu comme tel. Ça aussi, ça nous a
rassemblés. Ça nous a rassemblés.
On a cherché à faire, on a pensé, est-ce qu'on fait un spectacle jeune public ? Est-ce qu'on fait des chansons en langage imaginaire ? Et en fait, ce qui a déclenché le travail qu'on présente aujourd'hui, vu qu'on commence à peine à jouer, c'est peut-être la reprise de Barbara que Gaëlle m'a demandé de faire avec elle, d'arranger pour un concours où elle n'a pas été prise non plus. Donc...
On est né d'un échec, quoi.
Ouais. Moi, je ne dirais pas ça comme ça, c'est un petit peu...
Et attends, deux échecs, c'est bien, parce que mois par mois, ça fait plus.
Alors, je vais vous dire ce que j'avais répondu à un journaliste qui m'interrogeait sur cette question. J'avais fait un concours aussi que je n'avais pas gagné. J'ai renoncé au concours et j'ai continué dans la chanson. Voilà. Oui. Et vous avez bien fait aussi.
Ben, après tout, c'est vrai que moi, j'ai... plus ça va, moins je supporte le principe, même l'idée de compétition. Quel que soit le cadre, quel que soit le champ d'activité, ça ne devrait pas exister. Je l'ai vécu, j'ai bouffé du piano classique pendant un certain temps, tout en sachant très bien que je ne faisais pas ça pour devenir musicien classique. C'est juste pas possible, le marché est bouché, il faut avoir joué du piano avant d'être né. Le nombre de pianistes virtuoses de carrière a centuplé en 40 ans. Mais dès le départ, je savais que j'avais envie de travailler le piano pour une exigence de rigueur, pour apprendre des choses, pour me confronter à ce côté un peu monacal qu'ont été les années de travail d'interprète. Mais je savais que ce n'était pas pour devenir musicien classique, dès le départ.
Et la composition ?
Ça, c'est venu tout de suite, quasiment. C'est venu presque en même temps que j'ai commencé à travailler un instrument.
Voilà, alors on va écouter tout de suite pour savoir de quoi il est question. Donc Gaël Le Teuf, Gaël écrit les textes, et la voix, et quelle voix. Et Olivier Messager, compose les musiques, il joue du piano, éventuellement on entend sa voix, et il joue du mélodica. J'ai fait le tour à peu près.
Oui.
Alors on écoute une chanson qui est pas loin d'être mon tube, ça s'appelle « Ton impatience ».
J'ai découvert ton impatience cachée dans ce que tu entraînes, dans ton enthousiaste gaieté. J'ai abordé ton impatience quand elle a rencontré la mienne. En un éclat, elles ont volé. J'ai fouillé sans que mon ensemble, elle semble belle comme elle prend vie. J'ai trouvé ta persévérance sur les chevaux tissant les fils inattendus de la bobine.
Eh bien, ça s'appelle une panne d'appareil. Donc, on va vous passer une chanson, puis on va essayer de réparer l'affaire pendant ce temps-là. C'était une première cette année.
Il parle de la mort. Comme tu parles d'un fruit, il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté, et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent.
J'ai découvert ton impatience cachée dans ce tu entraînes dans ton enthousiaste gaieté. J'ai abordé ton impatience quand elle a rencontré la mienne. En un éclat, elles ont volé. J'ai fouillé sans que mon cœur tremble dans le coffre aux humeurs ternies. Parmi nos costumes, nos ensembles, elle semble belle comme elle prend vie. J'ai trouvé ta persévérance sur les chevaux tissant les fils inattendus de la bobine. Elle recommande la confiance, elle apprivoise mon intranquille royaume de larmes indociles. J'ai fouillé sans que mon cœur tremble dans le coffre aux humeurs ternies. Parmi nos costumes, nos ensembles, elle semble belle comme elle prend vie. Thank you. je savourais ton élégance, goûter aux simples éclaircies, je frémis entre tes bras tendres. Ils enlacent nos indulgences, laissent la place aux accalmies, réveillent les rêves endormis. J'ai fouillé sans que mon cœur tremble dans le coffre aux humeurs ternies. Parmi nos costumes, nos ensembles, elle semble belle comme elle prend vie.
Sur Radio G, vous écoutez une émission qui s'appelle « Qu'est-ce que vous me chantez là ?» C'est une émission concoctée et préparée par Michel Boutet. Rebonjour à tous et surtout toutes nos excuses pour la petite fantaisie que nous a offert le lecteur de CD au démarrage de cette chanson. On a pu quand même l'entendre en entier et vive l'électricité. Alors, comment Silène se construit, en fait ? Parce que votre rencontre, c'est un hasard bien choisi.
Eh bien, en fait, je trouve que tous les projets découlent de rencontres. Moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné dans ma vie de musicien. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de dire à quelqu'un que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait et que je travaillerais bien avec lui. Ça m'a valu, par exemple, le fait de bosser dans un groupe à Paris pendant 7 ans et de continuer à travailler avec le Théâtre du Tiroir de Laval depuis 26 ans. Donc là, c'est un hasard un petit peu similaire. On s'est rencontrés, on avait plein d'affinités sur pas mal de plans, et petit à petit s'est dessiné ce qui fait le duo aujourd'hui. Moi, il s'avère que j'entends très vite une mélodie quand je lis un texte, si le texte me parle. Donc ça va extrêmement vite. Après, on pourrait citer le bon vieil échange que vous connaissez sans doute entre Bob Dylan et Leonard Cohen. Cohen demandant à Dylan combien de temps il lui avait fallu pour écrire Hurricane, Dylan dit « Oh, 5 minutes !» Et toi, pour Alléluia, 1 an. Il n'y a aucune règle, vraiment. Mais moi, j'ai cette chance-là de pouvoir écrire rapidement. Après, c'est toujours une chose d'écrire. La mélodie, la structure, l'harmonie, le travail, après, c'est vraiment de vivre la chanson, de l'arranger, de l'enregistrer et de la faire écouter. Et ça prend beaucoup plus de temps.
Et qu'en pense Gaël, qui arrive avec les textes, c'est ça tu...
Alors en fait, au départ, Olivier a pris le piano sur des titres que moi j'avais écrits, paroles et musique. Et en fait, j'ai beaucoup aimé les propositions d'Olivier. C'est-à-dire qu'il a tout, en partie épuré, arrangé d'une façon que j'ai redécouvert la proposition musicale. Et ça a été un pur bonheur, prometteur pour moi. Enfin voilà, après je lui ai proposé du coup des textes et en cinq minutes sous ses doigts, dans mes oreilles, quelque chose de magique quoi. Donc il y a eu...
Cette chanson-là qu'on vient d'entendre par exemple, Ton impatience, moi elle me fascine particulièrement. Aussi parce qu'elle évoque musicalement des univers qu'on ne fait pas toujours se rencontrer, je trouve.
Ben en fait, moi plus ça va, plus quels que soient les projets... J'ai des axes de travail, des choix esthétiques qui sont assez précis, assez clairs. Et plus ça va, plus, je fuis le clic. On sait qu'au studio, quand on enregistre, quand on est à plusieurs à enregistrer, quand on enregistre piste par piste, on a besoin d'avoir le clic, le fameux métronome dans l'oreille.
Voilà,
et moi, plus ça va, plus j'ai besoin que ça respire, que ça s'arrête, qu'il y ait du rubato, que le tempo chute. Là, la chanson qu'on vient d'entendre est un exemple typique. Il y a plein de moments où ça respire, on étire le temps, on s'arrête.
C'est
on
ça.
Laisse la place au silence, en un sens.
C'est pas la mécanique qui guide l'affaire.
Oui, et puis c'est pareil, c'est toujours la même histoire. Ce qui tue la musique dans des genres, il y a des choses que j'aime beaucoup en métal ou en hard rock ou en techno, mais moi j'ai besoin de nuances. Et dans tous les genres musicaux, il peut y avoir de la nuance, c'est 50% de la musique. Ce qui tue la musique, c'est le triple forte en permanence, et que ça ne respire pas du tout. Parce que la vie n'est pas comme ça, tout bêtement.
Je suis bien d'accord. Gaël, la chanson qu'on va écouter maintenant, Accru.
Oui. Eh bien là, typiquement, j'ai proposé une chevauchée à Olivier, parce que j'avais vraiment des images. Enfin, c'est un élan intérieur accru. C'est une urgence d'à nouveau se mettre à l'eau. Enfin, voilà. C'est vraiment des chansons qui sont nées là en 2022, quoi. Et voilà, j'ai proposé cette urgence-là, cette chevauchée à Olivier. Et... Accru, remonter les cours d'eau, leurs vagues au galop, arpenter les collines, les pierres sous les pieds. Et les siècles passés, croiser le nez en l'air. Faire sonner tambour battant, les eaux épaules laissées au vent, s'élancer neuf de vagues en galop. Faire sonner tambour battant, les eaux épaules laissées au vent, s'élancer neuf de vagues. Chasser sur les ventres en cru des danses inconnues, tutoyer des étés, espérer chevelés. Danser sur les tourbes mêlées de terre peuplée de bois, laisser briller les yeux.
En spectacle, puisque j'ai pas eu la chance encore de vous voir, que ça en spectacle, ça donne des moments qui de grâce, des moments où on est en apesanteur. Bravo pour cette musique, bravo pour ce piano, bravo pour ces mots et cette voix. Albert, je sais pas ce que tu en dirais.
Ben moi, ce que je dirais, c'est
si on te demandait,
ils restent pas tous les deux dans le même sabot.
Oui, oui, donc voilà. Quelles sont les influences, si vous en reconnaissez, ou les gens que vous avez croisés avec bonheur, on va dire.
Ben là, on pourrait partir pour plusieurs heures. va être limité par
c'est, ce que, c'est ce que j'ai compris oui, dans les propositions que vous m'avez faites de passer des chansons. Il y en avait déjà une quinzaine. Donc...
Ben, disons que moi j'ai un, pas, comment dire, j'allais dire un problème. J'ai un adjectif qui me colle à la peau depuis des décennies, c'est atypique. C'est difficile de mettre ce que je peux faire au niveau composition dans un genre particulier. Et de fait, j'ai toujours passé beaucoup de temps à combattre les moulins à vent qui sont les chapelles. J'ai toujours trouvé qu'il y avait un problème très français, où c'est comme s'il fallait mettre des étiquettes sur les choses.
Oui. Comme pour rentrer les... dans les cases.
Voilà. Et ça, aux États-Unis, par exemple, c'est un problème qu'ils n'ont pas du tout. Parce que la grande différence avec la France, c'est qu'aux États-Unis, la musique compte pour avoir son bac. Donc tout est dit. Et ils savent tous jouer à la fois Bach et Ray Charles, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de classification, il n'y a pas de, d'échelle de valeur. C'est de la musique, c'est tout. Et moi, j'ai des amours dans plein de genres musicaux. Alors là, pour ce qu'on fait avec Silène, dans ce qu'on vient d'entendre, par exemple, dans cette espèce de martèlement qu'il y a au piano, il y a très nettement l'influence d'un compositeur anglais qui s'appelle Michael Nyman, qui est classé parmi les post-modernes, ce qui ne veut rien dire non plus, et qui fait une musique tonale en utilisant des procédés musicaux qui pourraient dater de l'époque des romantiques, mais avec un sens de la pulsation qui est clairement issu de, des musiques pop-rock. Il sait jouer, là je vais parler comme un musicien, jouer en avant. Ça c'est une notion que je n'ai jamais appris en classique, j'ai appris ça auprès de musiciens traditionnels ou pop-rock, qu'est-ce que c'est que jouer en arrière du temps, en avant du temps, au fond du temps. Et j'ai toujours été touché par cette espèce de côté, cette frénésie, ce côté où, il faut, où ça avance, on a besoin que ça pousse derrière, qui est très présente dans plein de choses chez Nyman.
Et Gaëlle évoquait, elle, le nom de d'Agnès Obel, qu'on va écouter. Est-ce que tu veux nous en dire un mot d'abord ?
Bah, c'est vraiment quelque chose qui m'a bercée en tout, que ce soit dans son arrangement, sa proposition, son univers, enfin c'est... Oui, en plus Agnès Obel, voilà, ça s'est un peu imposé. On en a très vite parlé, en fait, de cette influence-là commune.
Eh bien, on écoute.
Side.
Agnès Obel sur Radio G, vous écoutez une émission qui s'appelle « Qu'est-ce que vous me chantez là ?» C'est tous les jeudis des semaines impaires de 17 à 18 heures. C'est aussi évidemment en podcast sur le site de la radio www.radio-g.fr. Alors, je suis avec Gaël Le Teuf et avec Olivier Messager. Et j'ai bien envie de savoir, Gaël écrit les textes, Olivier écrit les musiques. Gaël, comment tu reçois la musique d'Olivier, ou qu'est-ce que tu en attends éventuellement, comment ça se passe?
En fait, moi, d'abord, ça a été une surprise parce que j'attendais rien. On improvisait beaucoup quand on s'est rencontrés. Et donc, il était au hang, au piano, au mélodica, à l'accordéon, parce que voilà, il est multi-instrumentiste, Olivier, et qu'on était vraiment sur des échanges de sons, de pattes sonores, et puis les chanteurs aussi. Donc voilà, nos voix se sont mêlées dans un langage imaginaire. Donc moi, j'attendais absolument pas, j'imaginais même pas pouvoir partager une composition, et en tout cas pas de la chanson française, quoi, pas de la poésie. Donc ça a été un cadeau. En fait, moi, je reçois la musique d'Olivier comme un cadeau.
Tu n'attendais rien et tu as reçu beaucoup.
Ah voilà, c'est ça.
Et
ça,
c'est pas mal comme position. Et est-ce que ça change quelque chose au niveau de ton écriture?
Ça change tout. J'ai l'impression que ça a mais tout changé. C'est-à-dire que, tout comme il n'aime pas les cases, moi je les déteste, et je crois que j'avais quelque chose de l'ordre de l'aversion à m'accompagner toute seule à la guitare. Il y avait quelque chose qui me frustrait énormément et qui me limitait dans ma proposition texte. Et là, c'est comme si quelque chose s'est ouvert et le chemin se fait de plus en plus large, quoi. J'adore le chant baroque, j'adore le lyrique, j'aime beaucoup explorer l'improvisation, le langage imaginaire. Et j'ai l'impression que tout est possible aussi, du coup, dans les textes. C'est-à-dire comme si tous ces univers-là...
Olivier, ces textes...
Les images se mêlaient.
Comment ils viennent à ta rencontre?
Ce qui est particulier, c'est qu'on est auteurs tous les deux, qu'on est chanteurs tous les deux et qu'on est aussi compositeurs tous les deux. Donc moi, ce qui me parle dans les textes de Gaël, c'est ce côté qui permet plusieurs lectures. Parce que les images qu'elle propose souvent dans ses textes sont des images très ouvertes et ça rejoint un de mes grands chevaux de bataille, suggérer plus qu'imposer. Laisser l'auditeur libre de faire son chemin. Et en ce sens-là, on fait de la chanson qui est chantée en français, mais on ne s'inscrit pas du tout dans un courant de chansons françaises classiques. Pas du tout. Et c'est ça qui me plaît. Le fait de pouvoir... quand on joue ensemble en concert, on crée une bulle. On crée une espèce de moment suspendu.
Eh bien, on s'offre un troisième moment suspendu avec un autre titre de Silène, donc Sentinelle.
Nos belles sentinelles, comme elles sont figées. Nos belles sentinelles, nos belles sentinelles. Elle joue, court, vole, pourtant elle guette. Elle joue, court, vole, pourtant elle veille. Nos adultes fragilités.
Silène par qui chantait Sentinelle. Je crois que j'inverse.
Au fait, une question. Pourquoi Silène?
Parce qu'il faut un nom pour le duo et qu'on a longtemps cherché. On a beaucoup imaginé. Et là, pour le coup, on n'avait pas d'image qui se rencontrait. Et puis finalement, Silène, c'est sur le bord du chemin, le compagnon blanc, une plante. Tout à fait commune, très jolie, blanche, enflée. Et c'est aussi un satyre qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la boisson, mais qui
ça picole dur.
Ça picole dur. Ouais. Donc on est nous d'une sobriété à tout craint, c'est vrai.
Oui, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un nom à plusieurs sens.
C'est
ça permet plusieurs interprétations. C'est aussi ouvert que ce qu'on essaie de faire. Dans la musique et dans les chansons.
Donc pour la prochaine fois, Albert, tu nous concoctes 4 ou 5 définitions du mot Silène, 4 ou 5 définitions qui n'est strictement rien à voir les unes l'une avec les autres. Ok, c'est ça, c'est dans 15 jours. On va s'offrir un petit cadeau que vous nous avez fait en demandant de passer un monsieur qui fait dans la liberté de ton. C'était Alain Bachung avec son ode à la vie.
De palin, tant de larmes. Mais l'ampleur m'a fait me fissurer. Où dans la vie, où dans la poésie, où dans la parodie. Petit baigneur, fais des longueurs à longueur d'odyssée. Brasse petit vernis, à bras raccourcis, brasse petit gabarit, brasse, engloutis mes péchés véniels, mes blasphèmes en apnée, brasse. Elle a jonché d'orchidées, l'enfer. Yasmina, je divorce avec la grande ours. Aux équinoxes, il arrive que je penche. Ouda la vie, ouda la poésie, ouda la presse.
pilori mes éclipses. À la trappe, rodéo, corrida, civière, sparadrap. À découvert, le ventre à l'air, ancré dans la baie du bonheur. Danser de frisbee dans les jardins de Libreville. Danser, hop, attrape, 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 loupé. Je fais la noce, je fais la noce avec Yasmina. Je divorce avec la grande ours. Aux équinoxes, il arrive que je pense. Je fais la noce.
De Gaël, le piano d'Olivier, c'est le duo Silène. Quels sont les projets?
Eh bien, on a enregistré 5 titres, donc on va trouver de quoi masteriser tout ça, et puis faire un EP numérique, on va peut-être aller sur une plateforme du style Spotify ou Deezer.
En fait, on peut jouer. Donc on cherche un maximum d'endroits pour pouvoir se produire. Et on cherche des partenaires aussi, tourneurs, agents, etc.
Eh bien, je vous souhaite le meilleur pour ça. Et vous pouvez revenir quand vous voulez. C'était un vrai bonheur. Merci beaucoup.
Merci Michel de ton accueil.
Tonton Albert, on se retrouve dans 15 jours.
Dans 15 jours, oui.
Pour une nouvelle et brillante chronique.
Brillante, je ne sais pas, mais pour une chronique en tout cas. Pour un sixième acouphène.
Ça s'appelle Qu'est-ce que vous me chantez là ? L'émission est maintenant terminée pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours à 17h et on recevra quelqu'un qui va nous parler d'un spectacle avec Romain Didier, Niobé, Elissa Vence qui va avoir lieu le 17 mars. Et là, ça va être l'heure de passer l'antenne à nos amis. Salut tout le monde !